Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. C'est une émission où on vous résume toute l'actu tech, on lit tous les blogs, on écoute tous les podcasts, on regarde toutes les vidéos YouTube, on analyse tout ça, on fait un mélange, on en tire le plus intéressant pour les infos et pour les analyses, et on vous le livre facilement consommable comme un bon petit plat préparé par mamie toutes les semaines, une petite heure par semaine environ. Le meilleur moyen, le plus simple des moyens pour suivre l'actu tech qui est tellement importante dans le jour, dans le monde d'aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui, je le dis spécialement pour en énerver certains, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir Marion Doumingue d'une part. Comment ça va Marion ?
Très bien, la forme, tu sens, tu pètes l'énergie là.
Eh, hey, n'est-ce pas ? Écoute, le petit, il y avait un énorme orage aujourd'hui, et, enfin ça fait 2-3 jours,
oui,
il y a des vents,
story,
mais...
Oui.
Oh, mais du vent, c'est incroyable, et le petit s'est réveillé 3 fois alors que j'avais eu la très bonne idée de me coucher à minuit. Donc si tu veux, le pétage de forme que tu sens dans ma voix, c'est le désespoir en fait, c'est ça qui donne l'énergie du désespoir. Et le rire que vous avez entendu, c'est celui de Stéphane Le Boisselier qui est avec nous aussi. Comment ça va Stéphane ?
Ça va, bien, bien. Ravi de voir que tu pratiques l'auto-flagellation sur ta section commentaires.
Au jour d'aujourd'hui, ça amène toujours quelques réactions.
C'est inévitable.
Bon, alors on a une spécialiste de l'UX et de l'UI d'un côté, un programmeur émérite de l'autre. Je crois qu'on va avoir une belle émission. Et avant de se lancer, j'aimerais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Aujourd'hui, c'est en particulier Bertrand Chabot, Davy, Olivier Soulet, James Wacky, Guillaume Blanco, Alexis Cernels, ou Cernils peut-être, Romain Thomas, Sébastien Piollet, Mathis et Guillaume Père. Merci à vous tous et je pense un grand merci des auditeurs qui ne sont pas sur Patreon parce que s'ils peuvent avoir l'émission, c'est grâce à vous. Donc merci à vous 10 et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous êtes les héros de cette production. Tu évoquais les stories, Marion. C'est vrai que j'ai été très actif sur Instagram ces derniers temps. C'est une sorte de nouvelle aventure de réseaux sociaux que je tente après avoir été un petit peu ronronnant sur Twitter pendant presque 10 ans. Et je me suis dit, puisque je suis tellement sur Instagram, je commence à vraiment apprécier le réseau. Et donc, avant de se lancer dans les annonces de Samsung avec le Galaxy Z Flip et le Galaxy S20 et les scandales avec Benjamin Griveaux et tout ça, on va en parler. Mais avant, je me suis dit, je pourrais vous faire un petit bilan des raisons pour lesquelles je me mets à bien aimer Instagram. C'est le début encore, mais juste pour vous faire profiter aussi de mes investigations aventureuses et mi-marketingueuses, parce qu'il y a un élément qui est assez fort de branding dans Instagram qui est assez intéressant. C'est pas forcément ma cam à moi, mais c'est une utilisation importante du réseau. Et je trouve que ça fonctionne pas mal. Je sais que toi, Marion, t'es un petit peu sur Instagram aussi. Stéphane, je suis pas sûr. Je sais pas si je t'ai vu sur Instagram. T'es plus Twitter, je crois.
Si. J'ai posté une magnifique photo du bassin d'Arcachon. Ce week-end encore, tu vois, voilà, qui a fait quelques likes. Alors visiblement, bassin d'Arcachon, ça a mieux marché que ma photo de la Normandie 15 jours avant.
On va laisser les guerres régionales décider. Mais alors, les trois trucs en fait que je note dans Instagram, et je commence à comprendre pourquoi les gens apprécient Instagram et pourquoi il y a plus d'utilisateurs sur Instagram que sur Twitter, beaucoup plus même, c'est d'une part, c'est très simple à comprendre comme utilisation. Tu poses des photos, tu regardes des photos. Twitter, on te dit, dis quelque chose, dis ce que tu fais. Et la plupart des gens, je pense, c'est je sais pas, je suis en train de manger des pâtes. Ça a pas l'air intéressant à la base, mais il y a quand même beaucoup de profondeur dans Instagram. Il y a les carousels de photos, il y a les vidéos, il y a les stories qui sont super sympas aussi. Le deuxième point, c'est que c'est un peu plus à sens unique que Twitter. C'est-à-dire qu'il y a peu de conversations. Et du coup, il y a moins de gens qui sont là pour vous dire que vous avez tort. Donc, ça pourrait paraître contre-intuitif de dire, il y a moins d'interactions, donc c'est mieux. Mais comme on l'a remarqué depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, souvent, ces interactions omniprésentes finissent par devenir pas forcément agressive, mais au moins pesante. Et donc, ça apaise beaucoup les choses quand on fait les choses sur Instagram. On met une photo, on met une vidéo. Il y a peut-être quelqu'un pour vous faire un commentaire et vous dire ce qu'il ou elle pense de la vidéo ou de la photo, mais c'est tout. Donc, ça va pas beaucoup plus loin, généralement. Ensuite, les stories, c'est un aspect éphémère qui est vraiment fun. On se met en postant les stories, c'est sympa, mais surtout, en regardant les stories, c'est presque la meilleure version de, entre guillemets, la télé adaptée au mobile. Je comprends pourquoi ça marche tellement. On regarde les séries de stories, on passe, ça dure quelques secondes, mais il y a suffisamment de créativité là-dedans pour faire des choses intéressantes. Et il y a même des choses interactives avec des sondages, des questions à poser, etc. D'ailleurs, je vais faire un petit Q&A en stories ce vendredi pour les gens qui suivent ça. Ça va être marrant. Et je vais le faire pour les patriotes, si vous êtes patriotes. Un Q&A dans le Q&A. Ça va être une inception de Q&A. De AMA entre les stories et un live sur YouTube réservé aux patriotes pour voir comment ça se passe, passer derrière la scène. Donc allez voir sur Patreon si vous êtes patriote, ça va être marrant, je pense, j'espère. Mais les stories, c'est juste, on passe de l'une à l'autre, peut-être pendant qu'on est sur les toilettes, et c'est juste sympa. Et là encore, il y a pas de, on regarde simplement ce qu'on nous propose, et on peut être acteur nous aussi. Et en bonus, j'ai un quatrième truc, c'est que même la pub est hyper bien intégrée. En fait, c'est des photos qui sont souvent très belles. Ça me fait penser, on en discutait avec ma femme, qui est plus fan d'Instagram que moi historiquement, et c'est plus des photos type magazine de mode ou magazine un petit peu haut de gamme, que des bannières de pub comme on peut les trouver sur le net. Et du coup, même les pubs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des pubs sur Instagram, elles passent pas trop mal. Et souvent, c'est des produits qui ont l'air intéressants. Donc bon, la pub, ça reste de la pub, mais je pense que c'est quand même la meilleure version de la pub que j'ai vue jusqu'à maintenant. Elle est, je crois, sur Instagram. Et en plus, il y a plein d'utilisations différentes. D'une part, Instagram TV, visiblement, n'est pas aussi mort que je pensais. Instagram investit dedans. Et d'autre part, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Instagram. Il y a des adolescents qui se mettent à vendre des vêtements, à faire des sortes de boutiques, des vêtements seconde main, grâce au mécanisme d'Instagram. C'est éminemment hackable, en fait, Instagram. Hackable dans le sens, on peut l'utiliser pour d'autres choses que ce pour quoi c'est prévu. Donc franchement, je découvre une richesse dans ce réseau social que je ne suspectais pas quand j'avais juste posté quelques photos, et je le fais depuis longtemps, je suis sur Instagram depuis longtemps, mais là, en m'y intéressant de plus près, je crois que je commence à le comprendre un peu mieux. Marion, toi, je le disais, t'es dessus aussi. Est-ce que tu l'utilises plus assidûment? Je sais que Jérôme l'utilise pas mal avec son compte Nowtech et son compte personnel. Il a beaucoup plus de followers que moi, ce qui me frustre éminemment, mais parce que je suis vain, je suis extrêmement vain. Mais c'est une bonne description là des qualités d'Instagram que j'ai fait.
Oui, t'as fait un bon résumé. Je pense qu'un point intéressant, une différence essentielle, c'est qu'Instagram repose sur le visuel alors que Twitter repose sur l'écrit. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus universel. Tu n'as pas la barrière de langage aussi. Oui. Donc, du coup, ton visuel atteint beaucoup, beaucoup plus de monde. Et en fait, l'intérêt aussi, une des différences aussi majeures d'Instagram, c'est comme ça repose sur le visuel, c'est beaucoup moins fatigant et agressif que la masse d'informations que tu peux trouver sur les autres réseaux sociaux, type Twitter, etc., où on est constamment agressé par des articles, de la pub, du texte, des informations, etc. Mmh. Et au final, Instagram te permet d'avoir une porte de sortie où tu peux prendre le temps d'apprécier un visuel, regarder des stories, faire une pause. Pour moi, Instagram, le premier usage que j'en avais, c'était faire une pause et pouvoir profiter du flux de photos vidéos de chouettes visuels que je voyais dans ma timeline. Je pense qu'il y a ça aussi qui facilite l'adoption d'Instagram par rapport à Twitter, où il faut aussi trouver qui suivre, qui dit des choses intéressantes, alors que sur Instagram, juste trouver des beaux visuels, des comptes avec des beaux visuels, est un point de départ plus facile également.
C'est vrai, ouais. Et en fait, c'est d'une certaine manière, c'est plus passif, Instagram, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. On pourrait penser que c'est négatif de dire que c'est plus passif, mais dans un monde en ligne où on est constamment sollicité partout, bah, le fait d'avoir un petit refuge, c'est pas plus mal. Et au final,
Tu peux être passif hein, sur Twitter. Hein. Utilisateurs ne dit rien. Hein.
Non, mais le fait de consulter Twitter est plus actif. C'est-à-dire que tu dois lire, comprendre les sujets dont on parle, suivre les conversations. Même quand tu consultes seulement, je trouve que c'est plus actif dans la démarche, tu vois.
Oui, parce que c'est plus profond, ouais.
Ouais. Et du coup, Twitter est plus anxiogène. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ma femme qui disait ça également, elle est très intelligente, ma femme. Elle disait, le monde serait beaucoup moins différent sans Instagram que sans Twitter. C'est-à-dire que Twitter est beaucoup plus important, entre guillemets, et a d'énormes qualités. Moi, je continue à utiliser Twitter, c'est un truc vraiment qui a un impact beaucoup plus fort pour le meilleur et pour le pire. Alors que si Instagram disparaissait demain, on serait très triste, mais ça aurait moins d'impact, je crois. Les deux sont intéressants, quoi. Mais au-delà de clivant, Twitter a une portée, a une une action, je crois, plus forte qu'Instagram, mais Instagram est plus agréable. Donc bref, voilà, j'aime bien.
Moi, j'en suis revenue de Twitter, hein, pour être honnête. Hein. J'utilise pratiquement plus, en fait, et j'ai beau faire attention aux personnes que je suis, c'est vraiment la recherche de l'émotion forte, quoi, dans le mauvais sens du terme.
Ouais, moi c'est aussi un truc dont je parle de temps en temps et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que je me réfugie. Alors le meilleur endroit c'est quand même le Slack des Patriotes, ça c'est le havre de paix, mais je me réfugie aussi un petit peu sur Instagram. Pas je me réfugie, mais je cherche un autre type d'interaction en ligne et de réseau social, même si je suis toujours beaucoup sur Twitter et comme je le disais c'est un truc qui me paraît très important, je suis d'accord, moi j'en suis un petit peu revenu aussi, je suis moins un défenseur mordicus de Twitter, je pense qu'il y a de très belles choses, mais c'est un petit peu comme Reddit, je crois. Il y a le meilleur et le pire sur Reddit, et il y a vraiment du meilleur. On entend beaucoup parler de Reddit pour le pire, mais il y a vraiment des choses très, 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 très bien sur Reddit. Mais bon, c'est un petit peu différent, quoi. Bref, voilà pour notre petit détour par Instagram. Je sais qu'il y a des auditeurs...
Il y a des trucs à dire, moi aussi.
Ah, pardon, Stéphane, vas-y, oui, bien sûr. Tu fais bien de m'interrompre, parce que moi, je m'arrête jamais, vas-y.
Il s'arrête pas, c'est fou. Non, mais en fait, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, et Marion d'ailleurs, sur le fait que Instagram.
Bon, alors c'est bien,
plus,
tu peux continuer, c'est bien. Si t'es d'accord avec moi, ça va, tu peux le dire.
Non, mais c'est plus un moment de détente, on va dire. Mmh. Sur Twitter, perso, je cherche plus à m'informer, etc. Mais c'est vrai que c'est devenu, par rapport au début, c'est devenu quand même relativement toxique. Chose qu'on a moins sur Instagram. Alors attention, c'est pas non plus le monde des bisounours, hein. Mais je trouve qu'il y a quand même moins de toxicité parce que il y a moins de commentaires. En général, les gens, quand ils commentent, c'est soit pour dire un compliment, soit pour rajouter une note d'humour, etc. Et puis là où je rejoins Marion aussi, c'est que le fait que ça soit visuel, c'est aussi quand même moins sujet à interprétation. L'écrit sur Twitter, quand on ne connaît pas la personne qui est en face, on peut très vite mal interpréter ce qu'elle a dit.
Alors que
parfois,
ce n'est
pas du tout ce qu'elle voulait dire. Et ça engendre des conversations, mais... ubuesque, alors qu'en fait tout part d'un malentendu. Et c'est vrai que du coup c'est moins le cas sur Instagram. Concernant la pub aussi, je trouve que même dans les stories en fait c'est assez bien intégré. Les vidéos sont relativement courtes et puis tu peux les passer beaucoup plus facilement que sur d'autres supports. Perso, c'est sur Instagram je pense où je clique le plus de fois sur une pub.
Ouais. Ah oui, moi aussi.
Moi, c'est marrant parce que j'ai une aversion sur la pub dans les sites web et je fais par principe, je ne clique pas dessus. Même quand je fais une recherche Google, je ne sais pas pourquoi. Je les vois, hein, mais je clique pas dessus. Et sur Instagram, le pire, c'est que elles sont vraiment bien Et du coup, j'ai envie de cliquer dessus, mais je me dis, non, il faut pas, je vais pas me faire avoir. Moi, je suis pas un mouton. Attends, moi, je clique pas sur les pubs. Et en fait, j'ai envie. Il y a des produits qui ont l'air vraiment intéressants avec les esthétiques.
Moi aussi, il y a pas mal de produits qui m'intéressent et tout. Donc, voilà. Et souvent, je clique. Mmh. Et après cette conversation qu'on a tous les trois ensemble, je me souviens aussi que finalement, ça appartient à Facebook.
Bah oui, bien sûr.
Juste, Patrick, petite nuance, c'est pas parce que tu cliques pas sur une pub que si tu cherches sur Google ensuite le produit que t'as vu en pub, ils t'ont pas repéré.
Ils m'ont pas très. Mais non, bien sûr, je sais bien. Je ne me fais pas d'illusions. Et en plus, si c'est un truc que j'aime bien, cliquer, ça peut leur amener quelque chose parce que je vais être plus intéressé, etc. Mais je sais pas. Non, mais ça, c'est vraiment le truc débile de Patrick, quoi. Mais oui, très 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 bonne remarque également. Et le fait qu'il n'y a pas de problèmes ou beaucoup moins de problèmes d'interprétation de ce qu'on voit ou de ce qu'on dit, c'est essentiel, t'as raison. Donc, bref, voilà, Instagram.
Et attention quand même aux dérives. Il y a quand même quelques dérives sur Insta. Là, c'est forcément l'homme de la sécurité qui parle.
Ouais.
Voilà, il y a quand même quelques dérives sur Insta. Et moi, je fais aussi attention parce que j'ai quand même deux préados à leur dire que tous les influenceurs qui suivent, etc., voilà, c'est pas ça la vie, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est
une tendance sur les influenceurs à ce que ma vie est belle. Regardez comme ma vie est absolument
et
géniale.
Idéal, et
voilà,
oui,
je fais
oui,
des trucs
sûr,
tous
ouais.
les jours et compagnie. Il faut quand même aider les jeunes du coup à relativiser sur tout ça.
Mmh. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et on a souvent parlé de ces problèmes aussi. On les évoque et évidemment, il faut pas les oublier. Mais là, c'était vraiment les aspects différences avec Twitter et un petit peu le. C'est vraiment 2020. Patrick découvre Instagram, quoi. C'est un peu.
C'est ça.
Bienvenue en 2015.
Dans le document, faut que tu penses à mettre 2020 aussi. Hein.
Ah oui, d'accord, ok, je vais changer. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, et ça a été montré par le sondage, dont je parlerai peut-être dans un épisode à venir, parce qu'il y a eu plein d'enseignements intéressants. Mais dans le sondage, il y a des gens qui sont souvent un petit peu plus âgés que les gens du net en général. Donc je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui, dans l'audience, ne connaissent pas bien Instagram et savent pas exactement... Enfin, connaissent bien sûr, et même certainement ont un compte, mais savent pas... les subtilités, les différences pour lesquelles on leur a donné les clés ici. Donc, je pense que ça aura servi. Même si, oui, c'est 2020, Patrick découvre Instagram, bravo. Il y en a quelques-uns parmi les plus jeunes qui vont bien rigoler. Écoutez, ça n'a peut-être pas l'air, mais j'ai presque 50 ans, moi, messieurs, dames. Vous vous rendez compte ?
On est trop vieux pour Snapchat, donc on
va sur Instagram.
Sur Instagram.
Exactement. Parlons un petit peu de vrai tech pour barbu et poilu. J'inclus des E là-dedans. Des E et ES. Non, pas E, juste E. Donc, les deux téléphones ou les deux séries de téléphones qu'ont annoncé Samsung il y a quelques jours à peine. Bien sûr, le Galaxy Z Flip ou Z Flip, qui est leur téléphone pliable dont on avait à peu près déjà tout vu. Et le Galaxy S20, alors je vais mettre immédiatement un moratoire sur les blagues sur où sont passés les S11 à S19. Ça n'est pas une plaisanterie acceptable, c'est de trop basse qualité pour cette émission. Stéphane les avait préparés déjà, donc il est bien frustré. alors, on va les prendre dans l'ordre. Le Z Flip, c'est celui qui a une forme de téléphone classique, un petit peu allongée, qui se replie pour être un carré. Qui tient dans la poche, il y a un petit écran minuscule qui vous donne l'heure et peut-être l'avis d'une personne qui appelle ou un signalement de SMS, une notification de SMS. C'est un écran de 6,7 pouces, Full HD bien sûr, AMOLED, qui a des spécificités vraiment de qualité. Il a deux caméras sur l'avant, il a même une caméra selfie quand l'écran est ouvert. Et l'un des éléments dont ils ont vraiment parlé et qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils ont réussi à créer un verre pliable. Et que donc, la qualité de l'écran est bien supérieure à ce qu'on a vu dans les téléphones pliables jusqu'à maintenant, où c'était du plastique. Alors, en test, puisque le téléphone est disponible depuis quelques jours. Il coûte 1 500 € chez nous, donc ça reste un téléphone un petit peu cher. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ils ont vraiment marketé le truc comme un truc haut de gamme. Il y a une finition qui est brillante, qui change de couleur, qui a des reflets super beaux. C'est vraiment le truc, on imagine le truc de clubber et de frimeur. C'est un petit peu l'image qu'ils ont voulu donner, d'influenceur. Donc moi, j'ai pas encore assez de followers sur Instagram. Je peux pas me qualifier d'influenceur, hein, malheureusement.
Ton appel à Jean-Luc Mélenchon n'a pas fonctionné.
Ah, tu sais que j'ai reçu des messages. Il y a plein de gens qui pensaient que j'étais sérieux. C'est incroyable. Mais je pensais que c'est marrant parce que moi, ce que je pense de moi et de ce que les gens savent de moi est complètement différent souvent de ce que les gens... Moi, bon, je ne suis pas un grand fan de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Donc, dans mon esprit, quand je faisais cette plaisanterie à l'épisode précédent en disant « Ah, si vous voulez sponsoriser l'émission, machin », c'était très drôle parce que c'était une blague. Oui, clairement, l'humour, ce n'est pas mon truc. Hein. Clairement, je n'ai pas bien réussi, mais il y a des gens qui sont venus me dire « Oh, laisse la politique en dehors d'eux ». Bon, c'était censé être une plaisanterie. Et comme j'ai dit sur Twitter, tout le monde sait bien que ma vraie tendance politique, c'est que j'attends le retour de Édouard Balladur. C'est ça que je veux, moi. Bon, là, on comprend mieux que c'est une blague. Non, ok, je vous demande de vous arrêter. Bref, bon, voilà, petite parenthèse sur ce sujet. C'était une blague, je vous rassure. C'était une blague parce que sur ce genre de truc, je n'indiquerai pas de préférence en plus. Il y a toutes les... Bon, bref. Je vais parler du Galaxy Z Flip plutôt, qui est vraiment tendance haut de gamme. Mais l'écran est, d'après les premiers tests qu'on a vus, il y a des gens comme des... Comment il s'appelle je ne sais plus le nom. Oui, c'est Jerry Rigg qui a fait des tests en passant des scalpels dessus et tout. Bon, en fait, la résistance est à peu près la même que sur un plastique, mais un plastique de bonne qualité. On voit une petite pliure au milieu et sur l'emplacement de la caméra en haut pour le selfie, on voit des petites pliures, on les sent surtout, mais c'est assez limité. Et c'est assez acceptable. Et puis surtout, le téléphone avec ce format, qui est donc allongé et qui se replie, il peut se rester replié à 90 degrés à différents angles. Donc on peut le poser sur le bureau et l'utiliser de cette manière et avoir comme un ordinateur portable presque l'écran replié. Et on a des informations, il y a des apps, un certain nombre d'apps qui sont optimisées pour cette utilisation, et c'est assez très certainement assez intéressant. Maintenant, ça reste un téléphone très haut de gamme. Moi, mon impression, c'est que c'est toujours pas le téléphone pliable qui est pour tout le monde, bien sûr, mais par contre, les progrès qui ont été faits depuis le Galaxy Fold de l'année dernière, et entre parenthèses, la manière dont ils ont réussi à complètement étouffer les sentiments de rigolade par rapport aux problèmes qu'a connu le Galaxy Fold, c'est incroyable. Pareil avec le Note 7, hein. Samsung, ils peuvent revenir de n'importe quoi. Le Note 7 qui explose, on n'en parle plus trop. Et la marque Note existe toujours. Et là, pareil, le Galaxy Fold, bon, bah oui, il y a eu des problèmes avec le Fold, mais personne n'a même évoqué ça quand on parlait du Z Flip. C'est très, très fort. Et évidemment, les produits sont de qualité, donc c'est pas mal. Et donc, on n'est pas encore à la version, on va dire, grand public de ce type de technologie, mais les avancées qu'il y a eu, la qualité du truc, la finesse, la pliure est moins importante, etc. Faudra voir à l'usage si ça pose d'autres problèmes, hein. Mais les avancées sont assez folles. Moi, je commence à me dire, peut-être que l'année prochaine, ça va devenir vraiment des technologies qui commencent à arriver dans le grand public. Donc, assez convaincu, moi. Est-ce que, Stéphane, peut-être, est-ce que toi, t'as été... convaincu par la présentation du Z Flip ?
Alors, c'est un bel objet. Après, c'est un peu comme le Razer où Cédric disait, c'est la semaine dernière, je crois, qu'au final, bah, quand il est plié, t'as un objet qui sert à rien. Mais en fait, je trouve quand même le Z Flip plus réussi que le Motorola. Dans le sens
le
où
Motorola est beaucoup plus bas de gamme en plus.
Le côté 90 degrés où tu peux à la limite le poser, ça fait un stand et tu peux regarder une petite vidéo, etc. Je trouve ça plutôt pas mal.
Moi je trouve qu'il a une finition qui est plus réfléchie, je dirais, que
Il est, c'est un joli objet et après replier, effectivement, il sert à rien, mais du coup, t'as quand même pas la, enfin, t'as pas la peur, l'appréhension de rayer l'écran dans ta poche. Tu vois. Et quand on a des téléphones suicidaires comme toi et moi, qui, alors le mien passe son temps en ce moment à glisser, de peu importe où je le pose, il glisse, il tombe. Voilà, c'est, voilà. Donc mon écran est à peu près aussi fracassé que le tien.
Ah, j'ai mis un Rhino Shield dessus, ça c'est.
Oui, j'ai vu.
C'est bah, justement sur Instagram.
En story.
Ça tient. Oui, oui, j'ai fait plusieurs étapes.
Mais ouais, franchement, je suis plus convaincu par le Z Flip. Alors après, reste à voir dans le temps ce que ça va donner.
C'est ça, hein,
si c'est comme le Razer où, d'après les stats, en gros, au bout d'un an d'utilisation, ça sera plus utilisable. Voilà. Alors après, ça reste que des stats. On verra à l'usage. Donc, je suis un peu comme toi. Je me dis peut-être que l'année prochaine, on commencera à avoir des trucs intéressants et on aura assez de retours pour se dire c'est achetable ou pas.
Ouais. Marion, j'imagine que tu es sur la même ligne.
Oui, je trouve ça intéressant. Une chose moi, qui m'a frappée quand je l'ai vue, c'est ça ressemble à un boîtier de poudre compacte.
Alors, complètement.
Parce que je suis une femme.
Non, mais complètement. On y a tous pensé, je crois, mais ouais.
Mais voilà, et du coup, je trouve que ça le rend très appréciable, en fait. C'est un petit boîtier, un petit téléphone pliable. C'est vrai que pour les femmes, on a un vrai problème avec les poches de jeans qui sont 10 fois trop petites, etc., à se trimballer une brique pour passer des appels et interagir. Et le fait de pouvoir le fermer en deux et d'avoir cet aspect un peu... ce rapport un peu intime de refermer son téléphone, de pouvoir, comme tu disais Stéphane, protéger l'écran quand on le replie et tout. Enfin, il y a un rapport un petit peu différent à un smartphone plat, quoi, normal. Là, j'avoue que je trouve ça assez intéressant comme concept. En effet, on voit qu'ils ont travaillé un petit peu l'interaction quand il est en format ouvert, mais posé, donc à 90 degrés. Donc ça, c'est intéressant. À voir si ça fonctionne bien, parce que généralement, ce genre d'adaptation logicielle, c'est jamais super bien fini. Mais à voir si là, ils ont fait vraiment attention. Mais en effet, l'usage peut être intéressant et du coup, comme tu le disais, on n'a pas forcément envie de rigoler quand on le voit. C'est plus une blague comme ça pouvait l'être pour le Fold, en effet. En termes de solidité, c'est pas encore ça, hein, clairement. Mais en effet, à voir dans le futur si on peut arriver à un produit qu'on peut commercialiser à grande échelle l'année prochaine potentiellement et qui, pour le prix, arrive à descendre un petit peu, quoi.
Et c'est marrant, tu évoques effectivement le boîtier de poudre. Ça me fait penser à ça. Ça me fait aussi penser peut-être à un Zippo. À l'époque, moi, je suis un petit peu âgé, comme je le disais, donc oui. Je me souviens des Zippo. Mais c'est ce genre de d'esthétique, je trouve.
C'est ce genre d'objet dont tu te sépares pas, qui a un affect fort et qui t'accompagne partout. Et voilà, je trouve ça intéressant.
Je dirais que moi, je m'attendais pas à ce que il me paraissent aussi cool avec les premières images qu'on avait eues. Donc voilà, c'est le Galaxy Z Flip. Et on a aussi eu, bien sûr, la présentation des nouveaux Galaxy S, les Galaxy S20. On a trois versions cette fois-ci avec le Galaxy S, le Galaxy S Plus et le Galaxy S Ultra. S20 Plus et S20 Ultra. Les écrans sont de 6,2, 6,7 et 6,9 pouces pour le Ultra. En fonction de la catégorie du modèle, on va avoir des qualités comme un écran avec un rafraîchissement de 120 Hz. On va avoir je vais passer les détails, mais le plus important, c'est la caméra, l'appareil photo ou les appareils photo avec le S20 qui a des fonctionnalités assez surprenantes. On a un appareil photo, un capteur de 108 mégapixels. Alors, on a toujours la question de, c'est bien d'avoir beaucoup de pixels, mais quand le capteur n'augmente pas de taille, ça veut dire qu'il y a moins de lumière par pixel, donc ça n'améliore pas forcément les photos. Mais ils ont des systèmes qui permettent de prendre la lumière de différents pixels avec donc en fait une quantité de pixels effective réduite, mais une finesse améliorée. Donc ils ont tout un tas de systèmes comme ça qui, il faudra le voir dans les tests en pratique, pourraient donner des photos de meilleure qualité que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le S20 Ultra a aussi un zoom x100 en combinant le zoom physique et le zoom optique et le zoom numérique. Il y a une batterie qui est assez impressionnante, etc., etc. En gros, on est plus avec le Z Flip qui est innovant vraiment, et le S20 qui est une amélioration des téléphones qu'on connaît depuis maintenant 10 ans, comme ce qu'on connaît depuis maintenant 10 ans, des améliorations étape par étape, on va dire, moins impressionnantes, et un focus énorme sur l'appareil photo qui, évidemment, est l'intérêt principal aujourd'hui pour beaucoup de gens quand ils changent de téléphone. C'est ce qu'on pouvait attendre, le S20. Il y a, je crois, je ne sais plus, je ne les compte même plus, il y a 4 ou 5 appareils photo sur l'appareil. Surtout sur le Ultra, il y en a une de plus, je crois. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus
classique. Je crois que c'était 12.
On n'en est pas loin. Ouais, donc on est vraiment, je crois, quelque chose de classique, quoi. Là, il y a moins de choses à discuter sur ces appareils-là, je pense, à moins que vous ayez des choses spécifiques.
Il y a quand même la disparition du port jack. Je crois que c'est la première fois sur les Galaxy S.
Ah oui, peut-être. Mais moi, tu sais,
c'était pas déjà sur la.
Non, ils l'ont fait.
J'avais l'impression.
Non, sur le Note, oui, mais pas sur les Galaxy S. Donc, je crois que c'est la. Je sais plus, hein, mais je crois que j'ai vu une vidéo de Pépé Marion où il disait que c'était la disparition du port jack pour la première fois sur les Galaxy S. Alors peut-être que je me trompe, mais je
crois pas. La nouvelle version de leur Galaxy Buds, qui les écouteurs sans fil, donc ils veulent peut-être vous pousser à les acheter. C'est possible aussi, comme chez Apple.
Alors là, Apple a pas fait ça du tout. Hein, on en parle vite fait de la 8K ou comment ça se passe.
Oui, on peut bien sûr, on peut évoquer.
Non, mais j'ai un peu de mal en fait avec la 8K sur un téléphone. On a déjà du mal à avoir du contenu 4K. Là, on nous parle de contenu 8K. J'ose même pas imaginer, mais bientôt, il faudra 3 Tera sur le téléphone pour pouvoir prendre une vidéo de 10 secondes quand notre fils ou notre fille souffle ses bougies d'anniversaire.
On n'est pas obligé de filmer en 8K. C'est pour certains utilisateurs, mais c'est clairement un indice du fait qu'on est vraiment à la fin des choses intéressantes dans les téléphones mobiles.
C'est ça.
Enfin, on n'arrive pas à trouver d'autres choses et donc on pousse des trucs comme la 8K qui sont intéressants pour les vidéastes vont dire quand je filme en 8K, je peux et que je fais mon montage après, je peux zoomer sur une partie de l'écran plus facilement, donc j'ai pas besoin d'avoir plusieurs caméras. OK, mais c'est vraiment
mais
une utilisation
un
vidéaste
niche, va pas filmer avec son Galaxy S20.
Non, ça peut arriver, ça peut arriver.
Ça arrive en dépannage, on va dire.
Ouais.
Non, enfin, je trouve que c'est un peu trop mis en avant en fait, si tu veux. Que
ils
nous
pas
disent oui,
d'autre.
On peut faire de la 8K si vous voulez, on a optimisé le logiciel, etc. OK, mais parce que après la vidéo en 8K, faut pouvoir la monter quand même. Déjà monter en 4K. Moi, je pense que Marion va pas en discuter à l'habitude avec Jérôme. Faut déjà avoir une bête de course. En 8K, j'ose même pas imaginer en plus la taille des fichiers, quoi.
C'est sûr, oui. La 8K, on est d'accord, c'est anecdotique. Mais autre chose qui vous a marqué, Marion, c'est un téléphone, c'est comme les nouveaux iPhone, les nouveaux Samsung, voilà, c'est le flagship d'Android pour l'année. Ok, Marion ?
On a perdu Marion.
On a perdu Marion. Bon. Je ne sais pas où elle est, effectivement.
Après les Galaxy Buds, moi, je demande quand même à écouter, parce que Samsung, maintenant, du coup, travaille beaucoup. Enfin, avec le rachat d'AKG, a quand même pas mal progressé sur la partie son. Et sa demande à être écoutée, à être suivie. Voilà, parce que c'est pas... Maintenant,
plus,
ils font quand même des bonnes choses.
Ils sont apparemment d'assez bonne qualité, effectivement. Ils ont 11 heures de batterie et on peut les recharger dans le boîtier, comme les autres. Ils coûtent $149, ça sera plus en euros. Il y a aussi des petites choses comme un partenariat avec Netflix, un partenariat avec Flipboard qui lance Flipboard TV. Bon, avec Netflix, on aura des contenus spéciaux sur les séries populaires. À voir, ça je suis pas convaincu que ça soit un gros.
C'est les bonus des DVD ou quoi ?
C'est un peu ça. Ouais. Et ils les auront en exclusivité pour certaines séries. Mais bon.
D'accord.
Voilà. Donc dans l'ensemble, je pense que le Z Flip est plus intéressant. En attendant de voir si Marion nous rejoint, peut-être que. On peut parler un tout petit peu de Patreon, et puis on va passer à l'histoire Benjamin Griveaux après, mais parlons un peu de Patreon, tiens. Vous le savez, Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Comme je le dis depuis quelques temps, l'émission, c'est un petit peu comme un magazine. C'est-à-dire que, oui, il y a de la pub, un tout petit peu de pub, deux pages de pub, on va dire, mais si tous les auditeurs décident de ne pas payer, bah, l'émission, elle ne peut pas vraiment continuer. C'est comme un magazine, si les gens décident de ne pas payer le magazine, bah, il ne va pas continuer très longtemps ou il va peut-être devoir changer de nature de fond en comble. Et pour le Rendez-vous Tech, la chose qui permet à l'émission d'exister telle qu'elle est, c'est le soutien sur Patreon et les gens qui décident de soutenir sur Patreon. Donc, bon, peut-être que vous écoutez depuis quelques mois, je ne vais pas forcément vous dire que c'est un truc que vous devez payer, mais si vous écoutez depuis plus de 6 mois, plus d'un an, bah vous appréciez l'émission, vous passez un bon moment, vous êtes informé, et pensez-y, si tout le monde se dit « moi je ne vais pas payer, je m'en fous », eh ben le système s'écroule. Donc pensez-y, allez voir sur patreon.com/rdvtech, c'est un truc vraiment facile à faire, le lien est dans les notes de l'émission et en plus vous avez des bonus sympas, donc c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Je sais pas qui est le troisième qui gagne, mais tout le monde gagne dans l'affaire. Donc j'y crois vraiment et je pense que ce modèle est vraiment important et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Et en plus, comme je le disais, il y a des bonus assez cool, donc allez regarder patreon.com/rdvtech et aider l'émission à exister et à être ce qu'elle est surtout. Donc merci à vous tous et merci mille fois à ceux qui soutiennent l'émission et qui permettent à ceux qui ne peuvent pas se le permettre ou qui n'ont pas les moyens ou ne veulent pas, bon, tout simplement, bah c'est grâce à vous, c'est grâce à ceux qui soutiennent que vous pouvez aussi vous permettre d'avoir l'émission. Donc, c'est à eux qu'il faut dire un énorme merci.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc, on va continuer, mais avant ça, un petit mot de Marion, dont l'internet est tombé, mais que j'ai appelé au téléphone, et je mets le téléphone à côté du micro, donc Marion, tu voulais dire au revoir, parce qu'on va pas faire toute l'émission avec juste le téléphone comme ça. Tu dis au revoir aux auditeurs, c'est ça?
Bah voilà, tout à fait, on a décidé de me censurer pour cet épisode. Il y a des forces extérieures.
Bon, et désolé que tu nous quittes, mais grâce au moins à cette solution low-tech, tu peux dire au revoir aux auditeurs. Donc,
tu peux dire au revoir.
Ils auront au moins ça.
De toute façon, vous serez en bonne compagnie, chers auditeurs, puisque Stéphane et Patrick seront là pour vous débriefer des autres articles tech. Et puis moi, je vous retrouverai le mois prochain. Je suis impatiente, du coup.
Très bien. Le lien vers le compte Twitter, et oui, on parle toujours de Twitter, de Marion, sera dans les notes de l'émission. Et à partir de là, vous pourrez aller où vous voulez. Peut-être que je mettrai ton compte Instagram, si tu le souhaites. Tu préfères Instagram?
Bah, si tu veux, je poste surtout des stories de concerts ou des photos de vacances, mais...
Bon, écoute, je mettrai Instagram, ou je mettrai peut-être les deux, tiens, voilà, ça sera plus simple. Bon, merci Marion, à très bientôt, ciao. Et ben voilà, grâce à la magie de l'internet, bon, pour être parfaitement honnête, on aurait pu se reconnecter, trouver une autre solution, mais on avait pas forcément énormément de temps pour ça, donc on va continuer comme ça. Et elle n'avait pas forcément énormément de choses à dire spécifiquement sur l'affaire Benjamin Griveaux que je voulais évoquer. Et alors, alors, comment...
C'est bien de commencer par ça.
C'est ça. Très bien. J'ai eu une série de réactions par rapport à cette affaire quand je l'ai découverte. Et j'ai eu 3 réactions. Je vais vous donner les 2 premières. Et puis, 3 réactions successives. Je vais vous donner les 2 premières. Vous allez voir si vous pouvez imaginer la 3e. Je pense que ça ne sera pas le cas, mais on va servir de Stéphane comme d'un cobaye. Alors, la première, c'était... Pour ceux qui ne savent pas, Benjamin Griveaux est un élu de la République... Bah, il n'est pas élu d'ailleurs. Il est le porte-parole du gouvernement de La République En Marche qui se présentait aux élections municipales parisiennes. Il était l'un des candidats et il y a quelques jours de ça, il y a des vidéos à caractère pornographique qui ont été diffusées, le mettant lui en scène. Et c'est une affaire donc de revenge porn en quelque sorte, où des personnes qui avaient des vidéos de lui, des vidéos intimes, qui avaient été faites dans le cadre de leur intimité, ont diffusé ces vidéos publiquement. Et donc, l'affaire de revenge porn est devenue sur le devant de la scène et on en a énormément parlé, beaucoup plus que par le passé, j'ai l'impression, pour les affaires de revenge porn par le passé. Donc, voilà pour le résumé rapide. Et il sait depuis, il a été harcelé, il a dû se retirer de la course, etc. Ma réaction, la première, ça a été une réaction d'agacement parce que le revenge porn, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Dont on a d'ailleurs parlé dans l'émission à plusieurs reprises. J'ai bien l'impression, je ne dis pas de bêtises, je crois, mais en tout cas, je suis assez certain qu'on en a parlé. Et oui, j'y repense au contexte spécifique dans lequel on en a parlé, et on en a parlé plus d'une fois. Et généralement, ça concerne plutôt des femmes. Et là, vraiment, comme une certaine partie des observateurs de cette histoire, j'ai été frustré et énervé qu'il faille que ça touche un homme pour que, enfin, ça devienne un vrai problème. Et que tout le monde soit scandalisé et que machin, comme à chaque fois, ou comme souvent, quand on a un problème qu'on évoque quand ça touche les femmes ou d'autres minorités, bah, on ne s'en préoccupe pas. Et tout à coup, quand c'est un homme, le monde se lève et est scandalisé. Bon, donc la première réaction, c'était une réaction d'agacement par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas également un problème pour ce beau Benjamin Griveaux qui s'est fait traîner dans la boue, mais il n'empêche. Deuxième réaction, ça a été de comprendre le caractère politique de la chose. Et c'est vrai qu'il y a un aspect éminemment politique, c'est vraiment une attaque politique, cette affaire, pas juste parce que ça concerne un homme politique, mais la motivation semble en tout cas, enfin non, elle est, la motivation est politique. Les gens qui ont poussé ces images avaient une motivation politique, et bien sûr, les conséquences politiques sont importantes. Et donc, ça a un aspect, on va dire, un petit peu plus d'ampleur que quand c'est juste une personne, soit moins connue, soit une personne qui n'est pas dans la sphère politique, parce que comme toujours, évidemment, la sphère politique a des conséquences sur beaucoup d'autres choses. Donc, je comprends que ça prenne plus d'ampleur pour cette raison. Ma troisième réaction, est-ce que tu penses que tu peux l'imaginer, Stéphane ?
Je ne suis pas dans la tête de Patrick, c'est compliqué.
Écoute, le fait est que là, avec Benjamin Griveaux, on trouve ça, je pense, la plupart des gens trouvent ça assez scandaleux et se disent « oui, ok, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais personne ne devrait avoir à subir ce genre de choses et personne ne devrait avoir à vivre ce genre de choses. » C'est du domaine de l'intime. Admettons même qu'il ait des pratiques qui ne soient pas habituelles, qui ne soient pas classiques, qui sortent de la norme, on va dire.
Oui.
J'essaye d'éviter de dire normal parce que ça stigmatise.
J'ai bien compris.
Ouais. Mais quand on dit qu'il ne soit pas dans la norme, on comprend mieux ce que je veux dire. Admettons, je ne sais même pas si c'est le cas, je vais vous avouer que je n'ai pas vu les vidéos en question, mais c'est quand même un truc qui scandalise la plupart des gens. Et ma troisième réaction... Toi, tu le vois peut-être pas, mais si tu penses au fait que je suis souvent l'avocat du diable, tu vas comprendre. Par un biais qui est peut-être inattendu, j'ai pensé à Donald Trump. Et vous vous souviendrez peut-être que lors...
J'ai pensé à quelqu'un d'autre, mais vas-y.
lors des élections américaines, il y a eu des histoires sur les vidéos... de Donald Trump qui serait quelque part disponible, de Donald Trump qui urine ou qui se fait uriner dessus, je ne sais plus exactement les détails, par des prostituées russes en Russie. Et à ce moment-là, bon, c'est forcément pas très ragoûtant, mais à ce moment-là, moi, et je pense bon nombre d'autres personnes se disaient « Ah ben, si ça sort, voilà, ça nous montrera qui est vraiment Donald Trump. » Mais quand on regarde les choses de manière un peu objective, est-ce que ça, c'est pas aussi du revenge porn ? Est-ce que c'est pas la vie intime, sexuelle de Donald Trump ? Et nous, on se dit « Ah ben, faudrait peut-être que ça sorte. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on l'aime pas. » Bon, parce qu'on le trouve dangereux, etc. Mais c'est juste parce qu'on l'aime pas. Et moi, j'aurais, à ce moment, bon, c'est pas que je voulais voir ce genre de vidéo, mais je me suis dit, ah ouais, faudrait savoir, faudrait... Très sincèrement, j'aurais été peut-être pour qu'on voit ces vidéos. Et pourtant, c'est du revenge porn. Et donc, je sais pas quoi faire de tous ces sentiments contraires. Je crois que dans l'ensemble, on sera tous d'accord pour dire qu'au final, ok, bah, le revenge porn, c'est acceptable pour personne. Mais dans ce cas... Ce qui m'a surpris, c'est que du coup, bah, c'est pas acceptable pour Donald Trump non plus. Et au final, on les a pas vus. Donc, mais je pense que c'était pour d'autres raisons qu'on les a pas vus. Mais c'était, j'ai trouvé ça. Je me suis moi-même surpris de ce raisonnement qui a fini par m'amener à un endroit où je me disais, mais attends, en fait, même ce truc de Donald Trump, ça aurait été du revenge porn. Et j'étais pour, ce qui était complètement en conflit avec mon analyse de la situation aujourd'hui et mon attitude par rapport au revenge porn en général. Donc, je ne sais pas quoi faire de ces sentiments.
C'est ton aversion pour la personne. C'est ton aversion pour la personne qui a fait que d'un coup, potentiellement, effectivement, tu pouvais trouver ça acceptable.
Alors que c'est inacceptable. Tu vois, si j'y réfléchis objectivement, donc...
Oui, oui, oui.
J'ai trouvé ça, comment dire, surprenant, intéressant comme dualité. Et voilà, donc c'est par cet angle que j'aborde, moi, cette affaire Benjamin Griveaux, parce que pour tout le reste, je crois que je suis assez clair sur ce que j'en pense, et au-delà de la dimension politique, je suis peut-être frustré, mais à la fois heureux que maintenant le revenge porn soit à ce point sur le devant de la scène que si ça se reproduit, et quand ça se reproduit, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de visibilité sur la chose, là où avant, par mécaniquement, ça avait moins de visibilité parce que c'était une personne moins connue.
Oui, c'était des inconnus, très souvent. Après, ouais. Malheureusement, majoritairement des femmes, avec des ex frustrés qui devaient trouver un moyen de se venger. Mais voilà, après moi j'ai toujours abordé ça sur les deux aspects. Je pars du principe que moi, tant que c'est entre adultes consentants, etc., peu importe le bord politique ou quoi, j'ai pas à me mêler de ça, c'est eux que ça regarde, et voilà, tant que c'est pas dans l'illégalité et qu'on parle pas de pédopornographie, etc., peu importe, je m'en fiche. Enfin, j'ai toujours dit, moi, ce qu'ils font de leurs fesses, typiquement, j'en ai rien à faire, quoi. Et ça va pas me biaiser ou changer mon avis sur un homme politique, que je sois d'accord avec lui ou pas d'accord, etc.
Non, mais ça, je pense qu'on est d'accord. Mais par rapport à l'acceptabilité de la vidéo, tous les exemples de la Terre, je pense qu'on serait tous en train de dire non, non, non. Mais si c'est une personne qu'on aime vraiment pas, genre encore une fois Donald Trump, est-ce que tu aurais considéré ça comme du revenge porn Donald Trump?
Oui, j'aurais considéré ça comme du revenge porn.
D'accord.
Malheureusement, j'aurais eu, je pense, la même réaction que toi.
Ah oui, c'est ça,
j'aurais considéré ça comme du revenge porn, mais en me disant, tu vois, parce que c'est Trump. Et parce qu'on a une aversion pour ce gars-là. Et effectivement, je pense que c'est bien de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de passer plusieurs étapes pour en arriver à une conclusion au final qui est plus saine à la fin.
Bon, donc voilà, et oui, évidemment, le personnage de Donald Trump est particulier, et c'est pas les mêmes conséquences, c'est pas les mêmes choses, j'en suis bien conscient aussi, mais non, sur le principe... Bon. Bon, parlons un tout petit peu de l'inventivité, de l'ingéniosité des personnes qui vous veulent du mal et qui veulent de l'argent. Les criminels ont... initier un nouveau type d'extorsion, c'est bien que tu sois là pour qu'on en parle, assez ingénieuse envers des sites web. En fait, il y a un problème sur la pub, avec la pub sur le web, c'est que quand vous affichez de la pub et que quelqu'un clique dessus, Google, quand vous faites de la pub avec Google, Google va vous envoyer de l'argent. Et il y a une fraude à la pub qui consiste à artificiellement cliquer sur plein de pubs sur votre site web pour gonfler les chiffres et donc gagner plus d'argent. Google a des systèmes pour détecter ce genre de choses, et quand ils les détectent, eh ben, ils peuvent infliger des sanctions au site web en question qui vont jusqu'à le fait, jusqu'au fait de bannir complètement le compte Google, le compte AdSense, qui est la division de Google qui gère les pubs de ce type, le compte AdSense de ce site. Eh bien, les criminels ont commencé à envoyer des lettres, des emails d'extorsion en disant, en menaçant de créer des robots qui vont artificiellement cliquer sur les bannières Google du site pour provoquer ce bannissement du compte AdSense du site. Et donc, provoquer une catastrophe financière pour le site parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir des pubs, en tout cas par Google, qui est l'un des fournisseurs de pubs essentiels du web. Et ça peut provoquer de gros, gros problèmes. Alors, on n'a pas les indications sur le fait qu'il l'ait vraiment mis en place à grande échelle. Ça reste plutôt des menaces. Mais Google a visiblement fait quelques changements et même les gens qui ont reçu ces mails ont détecté des mouvements de ce type. Donc, l'ingéniosité du truc de se dire « on va envoyer des robots pour cliquer sur vos pubs pour vous faire bannir du compte AdSense pour que vous puissiez plus avoir de revenus publicitaires sur votre site, donc envoyez-nous 5 000 $ en Bitcoin », c'est un nouveau niveau d'extorsion auquel j'aurais jamais pensé, quoi. C'est hyper malin, en fait. Mais évidemment, c'est criminel, mais c'est assez surprenant d'ingéniosité. J'imagine que Google pourra, à terme, j'espère, détecter ce type de pratique, mais c'est intéressant.
Bah, l'imagination n'a pas de limite. Hein. Voilà. Après, techniquement, honnêtement, sur des petits sites, ça peut fonctionner. Sur des gros sites, il y a quand même très très peu de chance. Aujourd'hui, non seulement Google va mettre en place des systèmes qui vont permettre de détecter et je pense de bloquer un certain nombre de choses. Alors là où sera toute la difficulté, ça sera de détecter les clics légitimes des clics illégitimes. Donc j'imagine que ça va très certainement passer au travers d'un JavaScript sur la page, etc. Après, tu as quand même déjà moyen de voir, alors fonction du trafic de ton site, mais aujourd'hui, il y a quand même des équipements de sécurité en face des sites web qui sont des WAF, des Web Application Firewall, qui sont capables de détecter des comportements qui sont anormaux. Et notamment un nombre de requêtes de différentes adresses IP ou d'une même adresse IP hyper rapide. Donc je pense que même les éditeurs de sécurité vont pouvoir aussi assez rapidement proposer une mise à jour qui détectera ce genre de comportement ou au moins alertera sans peut-être bloquer tout de suite, mais au moins alertera les équipes de sécurité du site en question.
D'accord. Donc, a priori, selon l'expert en sécurité Stéphane Le Boisselier, tu penses que c'est une extorsion qui est plus une menace qu'une réalité. Et si elle devient une réalité, à court, moyen terme, elle pourra être gérée par les services de sécurité des sites web et de Google.
Je pense. Mais si c'est le contraire qui se passe, je n'irai bien entendu avoir tenu ces paroles.
Bon, écoute, on a une autre alerte de sécurité, mais d'une nature un petit peu différente, puisque le GSMA, l'association qui gère notamment le Mobile World Congress, a décidé de l'annuler. On parlait la semaine dernière de l'épidémie de coronavirus qui avait des conséquences importantes sur la tech, et notamment de nombreuses sociétés de la tech qui avaient décidé de ne pas se rendre au Mobile World Congress. Il y en a eu tellement au final que le salon en entier a été complètement annulé. Je mentionnerai un commentaire de Nouvel Auditeur, c'est comme ça qu'il s'appelle, sur le site. On disait la semaine dernière, ou je disais, je vais prendre la responsabilité de la chose, que le coronavirus avait fait moins de morts que la grippe et que le taux de mortalité était faible, etc. Et c'est pas vraiment une légende urbaine, mais il faut être prudent avec ce type d'affirmation, comme me l'a fait remarquer Nouvel Auditeur. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est avec le coronavirus. Le taux de mortalité est plus faible que pour le SRAS, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un taux de mortalité inquiétant. On ne sait pas exactement comment il se diffuse encore, etc. Donc, il y a une certaine prudence à avoir sur le coronavirus. Ça ne veut pas dire que la décision d'annuler le Mobile World Congress est complètement logique. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas d'annuler ce type de choses, mais c'est une question de psychologie, une question de panique aussi, sans doute en partie, mais quoi qu'il en soit, le salon a été annulé et ça a des conséquences minime, on va dire, sur les grosses sociétés. Sur les plus petites, ça peut être des gros problèmes. Peut-être que certaines essaieront de saisir l'opportunité et de mettre le budget ou ce qu'il reste du budget qu'ils avaient mis dans le salon ailleurs, dans du marketing en ligne peut-être, parce qu'il y a plein de petites sociétés ou des contacts. Enfin bon, bref, ça peut vraiment poser des problèmes. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect délai en Chine de la production, qui d'ailleurs pousse Apple à annoncer qu'ils ne vont pas atteindre les prévisions de mars pour leurs revenus, étant donné que les fabrications d'iPhone sont affectées. Ça a l'air de se décanter petit à petit, mais c'est pas entièrement le cas aujourd'hui. Une chose qui est intéressante, c'est que la Chine a lancé une application dédiée à l'épidémie du coronavirus, qui se sert de leur réseau de surveillance monumental pour vous dire, en fonction de qui vous êtes, si vous avez potentiellement été en contact avec une personne qui a contracté le virus. C'est-à-dire que vous dites, vous dites qui vous êtes et il vous retrouve et il vous dit, vous donnez quelques informations, quelques données, et l'app va vous dire si vous étiez dans le même wagon de train qu'une personne qui l'a eu, parce qu'on sait où vous avez été tout le temps, ou si vous étiez dans le même, dans la même zone, enfin, par proximité, ça peut vous dire où vous avez été. Et donc, vous encouragez ou vous ordonnez d'aller voir un médecin ou ce genre de choses. C'est une utilisation positive, on va dire, d'un système terrifiant, qui est le système de surveillance du gouvernement chinois. Mais bon, voilà, sans commentaire, sans jugement, je vous présente cette application. Et bon sang, moi, ça me fait quand même peur.
Et quel est l'impact de si tu es contaminé par le coronavirus sur ton score social? Non,
c'est la grande question.
Troll. Je troll.
Tiens, l'impact social des gens les plus riches de ce monde. Jeff Bezos a annoncé le Earth Fund, le fonds pour la Terre, qu'il destine à combattre le réchauffement climatique. Il y dédie 10 milliards de dollars pour commencer, avec des attributions de fonds qui vont commencer cet été. C'est, alors, pour vous donner une idée, sa valeur financière, sa, comment dire, je me souviens plus du terme, son net worth, sa... Tu te souviens du terme en français? Bon, bref, ça m'échappe, mais...
Non.
Sa richesse se monte à 130 milliards de dollars, donc... Bon, on peut toujours dire 10 milliards de dollars, c'est pas grand-chose. Ok, d'accord.
Oui, mais c'est sur ses fonds personnels, il faut préciser quand même. C'est des fonds personnels.
Bien sûr. Mais bon, effectivement, il a encore de l'argent en banque. Il est quand même, il va pas devoir, comment dire, faire un emprunt demain. Mais bon, ensuite, bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, 10 milliards pour commencer, bah, c'est pas mal. Il rejoint certains des très très riches qui font ce genre d'initiative et il note le fait que le changement climatique est le plus grand danger auquel nous faisons face. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que 10 milliards ne suffiront pas, que c'est même une goutte d'eau dans l'océan. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose de positif et on l'appellerait de nos voeux de la part d'autres... riches et grands de ce monde aussi. Il y en a beaucoup quand même, particulièrement aux États-Unis, qui font ce genre de choses. Bill Gates étant le plus célèbre, mais voilà, c'est à signaler. Jeff Bezos, qui était assez discret sur ses actions caritatives, s'y met enfin. On ne sait pas si c'est pour redorer son image ou pas, mais c'est à noter.
C'est ça. C'est ça. Après, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'effectivement, là, c'est un bon début. Hein, donc, il y a une fondation, etc. C'est super. Si on prend le cas de... Tu parlais de Bill Gates, mais si on prend Microsoft, au travers de Satya Nadella, là, pour le coup, et pas Bill Gates, Microsoft a annoncé un vrai plan sur plusieurs années pour réduire l'impact, l'impact carbone, etc. De la société, montrer effectivement comment est-ce qu'ils vont essayer de produire leur propre énergie, moins consommer, etc. etc. Et il serait intéressant effectivement que Jeff Bezos fasse le même exercice pour Amazon et la partie la plus consommatrice d'Amazon en termes de ressources, qui est AWS.
AWS et sans doute le transport aussi, parce que le transport, la livraison des produits Amazon, c'est énormément de gaz à effet de serre.
Le problème, c'est que AWS, il a un impact direct dessus. Le transport, c'est plus compliqué puisqu'il passe au travers de partenaires que peuvent être les FedEx, UPS, Colissimo et patati patata. J'en dis plusieurs, tu vois, pour pas que t'aies une amende du CSA. C'est plus compliqué. Je pense que déjà, effectivement, s'il pouvait commencer par sa maison, effectivement, je te rejoins. Le transport aujourd'hui, c'est une catastrophe pour l'environnement. Donc, s'il y a moyen d'agir dessus, effectivement, ça peut être encore un plus.
Mais t'as raison. Je crois que évidemment, Amazon pourrait et devrait, je suis sûr qu'il y a certaines initiatives peut-être un peu disparates du côté d'Amazon aussi, mais enfin je suis certain, non, j'imagine, mais je suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que les centres de données, c'est un point localisé qui est peut-être un bon moyen pour débuter. Et peut-être qu'ils ont une partie, je suis sûr qu'ils ont une partie de leur énergie qui est verte, mais il est possible d'aller, et beaucoup le font d'ailleurs, à la fois Apple et Microsoft, et je suis sûr Google également, d'aller plus loin dans ce domaine. Donc oui, en général, c'est bien que Bezos mette 10 milliards de sa fortune personnelle pour financer des initiatives pour combattre le changement climatique. Ça serait bien qu'il mette une énergie comparable dans l'aspect entreprise de son activité, parce que évidemment la partie, mais peut-être que ça va avoir des conséquences ensuite, peut-être qu'ils vont étudier la meilleure faisabilité pour l'aspect commercial. Le plus gros impact, c'est l'impact professionnel, pas l'impact personnel.
On est d'accord. En fait, ce que je disais, c'est que ce qui serait bien, c'est effectivement d'annoncer un plan à la Microsoft, etc. Pourquoi ? Parce que ça évite aussi d'être targué de greenwashing. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, les gens peuvent dire, oui, bon, il a mis 10 milliards, ok, pour lui, c'est une paille, c'est ce qu'il va pour s'acheter des bonbons. Le fait d'annoncer des choses très factuelles avec un plan sur plusieurs années, avec des étapes, etc., ça permet aussi d'éviter les médisances et qu'on le taxe de greenwashing.
Apple a créé un truc assez malin pour payer. En fait, ils ont commencé en test, visiblement, à intégrer avec certains partenaires, dans des boutiques physiques ou dans des cafés ou des restaurants, des petits codes QR codes sur le ticket de caisse, la facture qu'on vous donne, pas la facture, mais l'addition, et vous sortez le téléphone, vous scannez le QR code, et ça paye avec Apple Pay. C'est tellement génial que ça m'a fait sauter de ma chaise quand j'ai lu le truc. Mais comment on n'y a pas pensé plus tôt ? Tu reçois ton addition, t'as même pas besoin d'attendre que le serveur ou la serveuse t'amène la machine à carte, etc. Tu scannes le truc, tu payes, c'est terminé. Mais c'est une idée. Mais c'est le génie. Voilà, l'esprit de Steve Jobs est toujours vivant. Je plaisante, mais franchement, on n'en est pas loin. Je trouve ça très malin. Et un résultat de recherche assez intéressant. Apple est en ce moment représente visiblement 5% des transactions par carte dans le monde. 5%. Et ils arriveraient en 2025 à 10% des transactions par carte dans le monde. Moi, je trouve ce chiffre hallucinant également.
C'est énorme.
C'est franchement... Mais vous vous rendez compte, Apple Pay représenterait 10% en 2025 des transactions par carte ? C'est fou. Enfin, c'est... Bon,
honnêtement, moi, si Apple Pay pouvait représenter 100% de mes transactions, je le ferais... J'adore Apple Pay. Et je trouve ça tellement pratique et idem. Alors, il y a eu des hicks au début, mais en termes de sécurité, c'est plutôt très, très rassurant. Et pour te raconter ma vie, il y a quelques temps, j'ai changé d'opérateur téléphone. Et je me suis dit, tiens, je vais retester un téléphone Android. Tu vois, avec un nouvel abonnement, j'avais moyen d'avoir un téléphone pour pas trop cher. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais aller tester un téléphone Android. Et donc, j'ai pris un Samsung S10e, tu sais, le essentiel. Voilà, parce que je voulais pas non plus dépenser trop d'argent sur un téléphone que potentiellement je n'avais pas gardé. Et donc, j'ai fait l'expérience de Samsung Pay et Google Pay. Et en fait, rien que ça m'a donné envie de retourner chez Apple. Parce que
ça semblerait être des systèmes comparables qui fonctionneraient de la même manière, non ? Je suis surpris que tu me dises ça.
Et oui, mais non. Parce qu'en fait, typiquement, alors c'est dommage, Marion n'est plus là pour en parler, mais alors j'utilise, comme Jérôme et Marion, j'utilise Revolut en conjoint avec ma chérie. Revolut, par exemple, dans Apple Pay, aucun souci. Mais par exemple, Revolut va fonctionner c'est Samsung Pay, ok, mais pas dans Google Pay, ok. La carte de ma banque, elle marche dans Google Pay, mais pas dans Samsung Pay, etc., etc. Et du coup,
mais est-ce que chez Apple Pay, ils ont tous passé les accords et ils fonctionnent tous avec Apple Pay?
Mais Apple Pay, au moins, c'est soit ça fonctionne avec Apple Pay, soit ça fonctionne pas avec Apple Pay, tu vois. Mais t'es pas obligé de choisir un prestataire particulier.
Sur le téléphone.
Donc moi, après, si tu veux, j'ai choisi des gens qui fonctionnent avec Google Pay pour les choses où j'avais Apple Pay pour les choses où j'en avais besoin. Mais rien que, enfin, sur la partie Android, ça m'a clairement agacé de devoir lui dire ah ben non, mais là je passe par Samsung Pay, là je passe par Google Pay, etc., etc., enfin Google Wallet, etc., etc. Donc alors que Apple Pay, je trouve ça, c'est tellement simple et intégré. Je fais mon fanboy de base, je suis désolé.
Non, mais il y a un petit peu de fanboying, mais il y a aussi un petit peu d'explication de l'utilisation qui est plus agréable et donc qu'on utilise plus quand elle est simplifiée. C'est une question du X et du I. La simplicité d'Apple a évidemment des avantages, mais elle a aussi ce genre d'avantage où tu te poses pas la question, c'est juste t'achètes avec Apple Pay ou pas. Mais oui, c'est un aspect qu'il est facile de ne pas dont il est facile de ne pas voir l'importance, je dirais, et de se concentrer
après,
si on a Samsung Pay,
c'est pareil,
Bien sûr, c'est ça. Mais on se dit, c'est pareil. Donc, si on a Samsung Pay et Google Pay, on peut choisir. Et donc, on a plus de choix. Oui, mais parfois, plus de choix amène plus de complexité, ce qui réduit le plaisir d'utilisation. Alors, ça a ses limites. Si Apple Pay était présent sur rien et que Google et Samsung Pay étaient présents presque partout à eux deux, évidemment que ça changerait les choses. Mais ça a pris du temps. Mais Apple a réussi à négocier une présence sur une bonne partie aujourd'hui des opérateurs financiers et des banques. Pas tous toujours, mais il y en a beaucoup. Et donc, les choses sont comparables par cet aspect. Donc, la discussion peut prendre cette direction, je comprends. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant de constater qu'on est à 5 et bientôt 10% pour Apple Pay. Je serais curieux de voir combien a Google Pay, justement. Il faudrait que je trouve ces chiffres-là. Si vous en avez, les auditeurs sont toujours une ressource hyper importante pour l'émission. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Andy Rubin, vous savez, le créateur d'Android, a dû fermer sa société Essential qui voulait faire des nouveaux téléphones Android à succès. Ils avaient levé 330 millions de dollars et ils étaient à un moment, ils avaient une valeur boursière d'un milliard. Et ben voilà, ils ont dû s'arrêter. Bon, leur téléphone n'était clairement pas idéal. Intuition Robotics crée des petits robots compagnons pour les personnes âgées. C'est une société qui est assez intéressante. Ils font des robots qui ne sont pas des robots humanoïdes, mais qui ont un petit peu une forme de lampe. Et c'est très différent des enceintes connectées parce qu'ils vont engager une conversation avec des personnes quand ils constatent que la personne n'a pas fait beaucoup de bruit depuis un certain temps. Ils savent si la personne est en train de faire quelque chose, de regarder la télé, d'avoir une conversation avec quelqu'un, et là, ils vous laissent tranquille. Mais si ils constatent que vous n'avez pas fait grand-chose, ou ils voient que vous n'avez pas bougé, ou ils vont vous suggérer peut-être que ça serait le moment d'aller faire une petite balade, ou ce genre de choses. Et c'est donc des petits robots qui sont spécialisés dans ce type. Ils ont des lumières qui fonctionnent pour donner des émotions, mais ce n'est pas humanoïde, c'est vraiment lumière type, je sais pas, les genres de robots qu'on peut voir dans des dessins animés ou des séries d'animation, ou même dans Star Wars, avec juste une tête et un cou articulé, mais le cou, c'est comme une lampe. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, et puis ça rejoint ce qu'on disait dans l'épisode de début d'année, que c'est peut-être une tendance qu'on va voir de plus en plus, ces compagnons virtuels. Donc, j'ai trouvé ça intéressant.
Et puis le côté proactif est intéressant aussi.
C'est ça, c'est-à-dire oui.
Il n'attend pas que tu lui parles, c'est lui qui prend l'initiative en analysant la situation. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu plus d'intelligence, on va dire, que dans une enceinte connectée, par exemple. Tu vois.
Exactement, exactement. Il est encore plus. Il capte encore plus son environnement. Bon allez, trois dernières petites news. Il y a qu'on parlait d'ingéniosité chez les criminels, on est presque dans le même domaine quand on parle d'ingéniosité chez les élèves de lycée qui utilisent des AirPods pour communiquer en classe avec la fonction énoncée du texte sur n'importe quelle application, l'application de notes par exemple. Ils s'échangent les AirPods, en fait chacun a un AirPod et ils prennent les AirPods de l'autre. Et ils tapent sur leur application texte quelque chose, et puis ils appuient sur énoncer pour que ça soit dit sur leur téléphone. Mais puisque l'autre personne a l'AirPod, eh ben, l'autre personne peut entendre ce qui est dit par Siri sur ce qui est dit, le texte qui a été tapé. Donc ils peuvent communiquer de cette manière sans avoir à discuter. Alors bon, évidemment, on pourrait se dire il pourrait simplement envoyer des messages facilement, des SMS, et c'est plus simple. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose d'envoyer des messages lus à haute voix, et c'est peut-être encore un petit peu plus discret. Donc, si vous êtes prof et que vous voyez vos élèves avoir les cheveux rabattus sur les oreilles, peut-être que maintenant, vous saurez pourquoi.
Mais où sont nos bonnes vieilles boulettes de papier ?
Eh oui, passe le papier à machin. Non, mais non, pas à machine, pas à machine. Non, non c'est pas. Ah
et la prof qui passe au milieu et qui dit c'est pour qui ça ?
Ouais, exactement. On est vieux.
Juste par contre, en France, alors je pense que l'article il est essentiellement américain. En France, il faut quand même savoir que l'usage du téléphone portable et donc des AirPods, etc., est totalement interdit en école primaire et au collège. Sur les lycées, c'est un petit peu différent. La législation laisse le conseil d'administration du lycée autoriser ou non l'utilisation du téléphone portable. Donc ça peut dépendre effectivement des lycées. Et on imagine que dans les lycées, il y a aussi des BTS et que les gens qui sont en BTS et qui sont majeurs, c'est plus compliqué de leur interdire l'utilisation du téléphone. Quoi.
En classe quand même, bon. Ouais. Écoutez, je suis bien content de ne pas être en charge de ce genre de choses. Bon courage les gars. Signal, je voulais juste parler de Signal juste une seconde, parce qu'on évoquait WhatsApp et sa popularité à l'épisode précédent. Figurez-vous d'ailleurs qu'ils ont annoncé qu'ils ont désormais 2 milliards d'utilisateurs. Non mais encore, on disait 1,5 milliard à l'épisode précédent en évoquant des 2,5 milliards de Facebook. Tout ça, c'est propriété de Facebook. Et WhatsApp, le dernier chiffre qu'on avait, c'était 1,5 milliard. Ils ont dit qu'ils étaient à 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Mais c'est intéressant parce que, alors il faut que je retrouve les noms, mais Signal est une société, enfin un outil de communication, de messages privés, qui est vraiment, vraiment très focalisé sur la vie privée et sur la sécurité informatique. Et quand le fondateur de WhatsApp a quitté WhatsApp suite au rachat, quelques années après le rachat par Facebook, parce qu'il n'aimait pas que la direction que prenait Facebook avec WhatsApp, il a donné 50 millions de dollars à la fondation qui gère Signal, et donc Signal a pu se focaliser beaucoup plus sur le fait d'étendre les fonctionnalités Signal, qui est plus qu'un simple outil de communication qui fait juste du texte, et ils ont dû développer des technologies sécurisées hyper intéressantes pour envoyer des stickers, par exemple, pour être au goût du jour et pour que les gens aient envie d'utiliser l'application. Et ça fonctionne de plus en plus. Et ils sont à la fois dans le fait d'étendre l'audience de signal pour que tout le monde puisse communiquer de manière sécurisée et en même temps leur proposer des outils sécurisés mais plus fun, comme des réactions emoji, des stickers comme on le disait, etc. Mais c'est très compliqué à faire et même les communications de groupe, c'est pas facile à faire de manière sécurisée. Et ils font de la recherche fondamentale, en fait, pour permettre tout ça. Et tout ça, c'est possible grâce aux 50 millions de... Comment il s'appelle ? Branco, je crois, qui a quitté WhatsApp. Donc, c'est vraiment une sorte de collaboration inattendue. Et en plus, les protocoles de signal sont open source. Tout est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus vérifiable que les autres applications de ce type. Donc... c'est une chose à garder à l'esprit. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des communications vraiment privées, je dirais, et c'est le cas depuis longtemps, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, c'est vers Signal qu'il faut vous diriger, encore plus que n'importe quelle autre application. Quoi.
Je plus sois, monsieur Béja, je plus sois.
Voilà. Et on peut boire un petit coup à la santé de HQ Trivia. Vous vous souvenez de cette application, de ce jeu en ligne qui vous proposait de répondre à des questions. Vous étiez des milliers et les derniers qui restaient pouvaient gagner beaucoup d'argent. Eh ben, l'application et la société ferment leurs portes. On est un petit peu comme pour Essential de Andy Rubin. C'était un truc... bon, sauf qu'eux, ils ont vraiment eu un gros succès pendant un moment. Moi, je vous avoue que j'y avais jamais vraiment cru. J'étais surpris que ça marchait aussi bien. Parce que combien de temps est-ce que les gens vont vraiment aller dans cette application pour regarder l'animateur leur poser des questions ? C'était un petit peu un jeu télé, mais en ligne. C'est le genre d'hybride qui, à mon sens, de mon expérience, marche pas très longtemps, même si on peut gagner un petit peu beaucoup. Et bon, bref, voilà. HQ Trivia ferme ses portes aussi. Si vous vous en souvenez, c'est le moment de lui dire au revoir. Et c'est aussi le moment de dire au revoir à Stéphane et à l'émission.
Mais non, pour... déjà ?
Mais oui, malheureusement, je suis désolé. Merci d'avoir été dans l'émission avec moi. Est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet, sur Twitter, par exemple ?
Oh oui, @lbstéphane sur Twitter. Et puis après, bah, vous me retrouvez sur Studio Renegade dans l'émission Beats une fois de temps en temps, parce que j'ai un emploi du temps un peu compliqué. Hein, vis ma vie de consultant en sécurité. Voilà. Et sur Révolution 3D, ma chaîne YouTube dédiée à l'impression 3D, où effectivement je produis un peu moins en ce moment, et depuis quelques mois maintenant. Mais j'essaye de.
Faut pas le dire. Donc Révolution 3D sur YouTube, Beats sur Studio Renegade et lbstéphane sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous n'avez pas encore noté, Instagram, c'est plutôt sympa. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et vous retrouvez l'émission toutes les semaines et vous pouvez commenter sur frenchspin.fr, évidemment. Et si vous avez des choses à dire sur tout ce dont on a parlé, on a toujours des commentaires ou très souvent des commentaires super intéressants, comme vous l'avez remarqué à cet épisode. Donc n'hésitez pas vraiment à venir le faire sur frenchspin.fr. Le lien est également dans les notes de l'émission. Et le dernier truc dont les liens sont dans les notes de l'émission, c'est patreon.com/rdvtech. Comme je vous l'ai expliqué en milieu d'émission, l'émission existe grâce à ceux qui la soutiennent. Donc merci à vous tous. Et si vous écoutez depuis un petit moment et que vous appréciez, faites-y un tour et voyez si pour un petit dollar, deux petits dollars, c'est pas grand-chose, c'est le prix d'un café par émission. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous apprécieraient le fait de la soutenir et d'avoir les bonus en plus, comme les émissions sans pub et sans promo et d'autres choses, grâce à Patreon. Ça se fait en deux minutes. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci à vous tous.
Hashtag
et à la prochaine.
Paye ton café.
Ciao. Et là, je viens de dire bonjour à Hugo en direct. Et donc, je dis bonjour à Hugo dans la fin de l'émission. Donc, Hugo, tu sais qui tu es et tu te reconnaîtras. Salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.